France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lorsque les Européens, et en particulier les Français, redécouvrent la Grèce au XIXe siècle, alors que s'invente la Grèce moderne, une évidence s'impose. La culture de cette nouvelle nation ne se résume pas, loin s'en faut, aux vestiges de l'Antiquité, qu'il s'agisse des ruines, des grandes cités, ou même des textes des philosophes. Non, la nouvelle société grecque a ses caractéristiques et sa culture, et cette culture était évidemment marquée par l'empreinte du christianisme orthodoxe, qui a fédéré quelques années plus tôt les insurgés contre la domination ottomane. La Grèce moderne est peut-être la lointaine fille de la Grèce antique, mais elle est aussi et surtout héritière de l'Empire byzantin. Et de fait, c'est dans les monastères, à travers les chants, les hymnes, le culte, qu'une identité grecque a pu survivre entre la chute de Constantinople et l'époque moderne. Alors pour comprendre ce rôle majeur de l'orthodoxie dans la transmission de la culture grecque à travers les siècles, il n'est pas inutile d'écouter les chants sacrés issus précisément de cette tradition orthodoxe. Des chants sacrés et quelques éléments de contexte, naturellement. C'est l'objet de l'émission que vous allez entendre dans un instant, « Chants de la liturgie byzantine » par Michel Cazenave, une émission diffusée en 2001 avec l'actrice Dido Likoudis et l'écrivain helléniste Jacques Lacarrière.
Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Pour des raisons historiques très précises, qui tiennent d'une part, bien entendu, au schisme qui a séparé l'Église d'Orient de l'Église d'Occident, c'est-à-dire l'Église de Rome. D'autre part, pour des raisons géopolitiques qui fait que la Russie était très éloignée de notre Occident des Lumières, de la même manière qu'après la chute de Byzance, la Grèce a été occupée pendant des siècles par les Ottomans. Pour des raisons historiques donc bien connues, la tradition orientale du christianisme a été soumise à incompréhension, pour ne pas dire tout simplement à méconnaissance de notre part. Et pourtant, il y a là tout un ensemble théologique, religieux, spirituel, d'une extraordinaire richesse que l'on est en train de redécouvrir aujourd'hui. Alors, nous avions déjà, à travers l'art des icônes, essayé de comprendre quelque chose de cette spiritualité tellement spécifique. Et d'une certaine manière, on peut dire que le chant byzantin et toute la tradition qui y est attachée, que le chant byzantin est comme une icône de la voix à travers laquelle on essaie de s'élever vers le Dieu inconnaissable. Et pour nous permettre aujourd'hui de faire cette découverte, nous sommes avec Dido Likoudis, chanteuse d'origine grecque, qui chante précisément du chant liturgique byzantin, particulièrement du 7e, 8e et 9e siècle, et puis Jacques Lacarrière, dont tout le monde connaît les traductions du grec, et qui en particulier a traduit en français l'hymne akathiste chanté à Dido Likoudis.
Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητα, χαίρε τίμιο διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάθημα σεβάζων ιερέων.
Il faut tout de même pas oublier que les évangiles sont écrits en grec, que la plupart des images, des métaphores, des symboles qui sont dans les évangiles sont grecs. Et que l'hymnologie byzantine, ou la poésie byzantine en général, au fond, n'a fait que continuer Elle n'est pas en rupture avec la Grèce ancienne. Elle la continue sous d'autres formes, et je pourrais vous en citer des exemples très frappants.
Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Je suis une Grecque de la diaspora, donc une Grèce de l'étranger. Et l'importance de ces prières, et pendant tout le carême, était non seulement un pont vis-à-vis de l'au-delà, mais un pont vis-à-vis d'un pays, d'un territoire qu'il fallait protéger, bien sûr, des ennemis. Et ça a été, c'est vécu dans une défense d'une identité, je dirais, beaucoup plus qu'une prière. C'est remercier la Vierge de l'identité que l'on maintient envers et contre tout. Et c'est, je crois, le point le plus fort de cet hymne agathiste, d'où cette participation pratiquement de tous les Grecs. Et lorsque j'étais en Éthiopie où je suis née, tout le monde allait à l'hymne agathiste pour écouter donc ce remerciement à nous avoir défendu d'être encore grec et non pas envahi par l'islam. Les hymnes agathistes est chanté le dernier vendredi avant le dimanche des rameaux, mais il inclut en lui tous les hymnes qui sont chantés les vendredis pendant la période du carême, qui sont des remerciements à la Vierge d'avoir protégé la cité. Cet hymne a été écrit au 7e siècle après Jésus-Christ, mais il porte chez les Grecs une notion comme une résistance ou comme la protection de la cité pendant toute l'occupation ottomane.
Alors, vous nous dites qu'il est chanté le vendredi après les rameaux en nous disant, mais en même temps, ça reprend tout ce qu'elle a chanté pendant la période du carême. C'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est un hymne qui se déploie sur une très très longue durée.
Oui, les hymnes commencent à 3h de l'après-midi après les matines, pour se continuer pendant 6 ou 7 heures. Lors de cette dernière prière à la Vierge, le public doit rester debout, d'où le titre agathiste, et on reste debout en entendant ces saluts à la Vierge, et ce côté répétitif fait donner une impression d'un bloc comme ça en transe religieuse très très forte pendant le dernier vendredi avant la fête des rameaux.
Il faut préciser que ce chant a été écrit dans une circonstance très précise, à un moment où la Constantinople avait été assiégée depuis 2 ans par des barbares qu'on appelait avares, qui avait quand même pas si barbare que ça, parce qu'il avait une flotte qui avait quasiment détruit celle de Byzance. Donc, mais enfin, qui venait du nord. Et un jour, au moment où il devait donner l'assaut final, une tempête effroyable a complètement anéanti leur flotte, et ils sont partis, ils se sont repliés. Et tout le monde attribuait ce miracle à la Vierge, qui était la protectrice de Constantinople. La ville lui est dédiée entièrement. Et c'est la raison pour laquelle ensuite un hymne de grâce, de remerciement, lui a été adressé. Mais c'est quelques lignes au début, n'est-ce pas? Au début on dit « Ô toi, grâce à qui nous sommes toujours là pour pouvoir te chanter tes louanges ». Et voici « Ô toi », et puis commence une série d'énumérations des différents statuts, fonctions, attributs de la Vierge, qui sont d'une grande beauté et d'une grande force, parce qu'ils se déclinent en quelque sorte sur tous les plans, sur toutes les images possibles de notre vie quotidienne, tout en restant dans le domaine de la souveraineté. Alors, je pense que cet hymne, on ne sait pas très bien comment il était chanté, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a des tropaires, vous savez que les hymnes byzantins étaient construits selon ce qu'on appelle une alternance de tropaires, qui est une sorte de refrain, où on revient donc à chaque fois au début pour enchaîner sur un nouvel aspect de la Vierge, et puis ce qu'on appelait des kondakias, c'est-à-dire c'est des vers, dont par des strophes, dont la première lettre devait servir d'anagramme, et donc en l'occurrence le nom de la Vierge ou un autre nom particulier d'une fête liturgique. Donc c'était construit quand même de façon très 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 stricte. On voit à la fois là une grande subtilité de conception, de construction. On voit en même temps un sentiment tout simple dont on pourrait dire qu'à la limite il repose sur une pure superstition. La Vierge protège Constantinople et c'est elle qui l'a sauvée. Alors bien sûr, plus tard, Constantinople est tombée. La question s'est posée beaucoup plus gravement que dans une bataille perdue pure et simple pour des raisons militaires, c'est qu'elle avait abandonné sa ville.
Mère de Dieu, la cité que tu protégeas du malheur célèbre aujourd'hui ta victoire. Que ta force invincible éloigne de moi tout péril, que je puisse t'invoquer. Salut, épouse inépousée. Ange du premier ordre, du ciel en t'envoya saluer la Mère de Dieu. Te voyant, Seigneur, dans un corps, il fut saisi et s'extasia, et alors t'adressa ces mots. Salut, brasier de toute bénédiction, salut, bûcher de toute malédiction. Salut relève d'Adam déchu, salut rachat des larmes d'Ève, salut hauteur inabordable à la pensée des hommes, salut profondeur insondable au regard des anges, salut trône de tu puissant, salut porteuse de celui qui porte l'univers, salut astre qui nous apporte le soleil, salut gastre qui contient Dieu, salut toi qui recrée la création, salut toi qui enfante le Créateur. Salut, épouse et d'épouser. Bienheureuse en son essence, la sainte se confia.
C'est difficile de, comment dirais-je, de savoir ce qui se passait, même dans un esprit du 6e siècle. Je vais vous raconter une anecdote intéressante sur la façon dont, au fond, dans ces hymnes, naissait, ou tout au moins tel que les Byzantins l'imaginaient. Le plus grand des hymnologues, il s'appelait Romanos. Et on l'a même appelé Romanos o Melodios. Romanos le mélode, tellement tout ce qu'il avait écrit enchantait ses contemporains. C'était un fils, il était né en Syrie, dans un milieu tout à fait paysan, que rien ne l'appelait à devenir le grand chantre byzantin, notamment de la Vierge. À force d'études, à force de... Bon, il finit par être nommé diacre à Byzance, donc. Or, à peine est-il installé là qu'il fait un rêve. Il rêve, bien sûr, que la Vierge lui apparaît. Et la Vierge est devant lui, d'une façon assez pas menaçante, mais quand même assez impressionnante, et lui dit « Tu veux vraiment chanter des hymnes pour moi ?» Et il dit, oh Vierge, si c'est en ma possibilité, bien sûr, je ne rêve que de cela. C'était là de le dire. Et elle lui dit, eh bien, et elle a un rouleau de parchemin. Elle lui tend ce rouleau, elle lui dit, avale-le immédiatement. Romanos avale le rouleau, manque de s'étrangler, et se réveille. Et à ce moment-là, il entame ce fameux hymne qui est le plus célèbre, qui est l'hymne à la Vierge, ô toi, platitela ton uranon, toi la plus vaste dans les cieux. Alors, j'ai souvent réfléchi à cette expression. Or, effectivement, cette expression, la Vierge emploie le terme même qui est dans l'Apocalypse de Saint Jean, où il y a la même scène à l'ouverture du 4e ou 5e sceau, où un ange dit à l'auteur de l'Apocalypse, à Saint Jean, avale ce parchemin et tu sauras tout ce qui va se produire ensuite. C'est-à-dire que la connaissance est donnée comme ça, j'allais dire presque comme dans le Lion de Platon, par une transmission directe du ciel sur le poète. Enfin, en l'occurrence, le chantre. Qu'on aurait dit aide peut-être dans l'Antiquité et qu'on dit maintenant psalmistis, chante, enfin disons. C'est une expression très belle. Alors voyez, on est à la fois dans cette conscience de la, je dirais, de la faiblesse et de l'incompétence de l'être humain, et en même temps, eh bien dans le meilleur des cas, comme dans les miracles antiques, on est en communication directe avec les puissances d'en haut, notamment avec la Vierge.
Salut,
sa descente. Salut pont qui relie la terre au ciel. Salut miracle et merveille des anges. Salut déroute et défaite des démons. Salut foyer d'indicible lumière. Salut gardienne des célestes mystères. Salut toi qui des sages surpasses la sagesse. Salut toi qui des fidèles fortifie la foi. Salut épouse inépousée. Dans le poème, on parle beaucoup plus de la conception du Christ que de sa passion. C'est, d'après moi, peut-être rappeler le côté magnifique et merveilleux de cette conception avant de rentrer dans la période vraiment du deuil qui commence avec le dimanche des rameaux.
Oui, mais on a l'impression que la Vierge, là, est glorifiée et louangée, en usant quand même de tours de rhétorique, je dirais de paradoxes assez étonnants. Par exemple, épouse inépousée. Par exemple, à un moment, on l'a dit mère de son Créateur. Et évidemment, je dirais en toute logique, on se dit, mais comment peut-elle être la mère du Créateur puisque le Créateur l'a créée. Comme si on avait l'impression que, je dirais pas que la Vierge est divine, mais qu'il y a un reflet tout spécial de la divinité sur elle. Est-ce que c'est bien le sentiment qui est...
Absolument, tout à fait. D'ailleurs, la Vierge porte dans l'orthodoxie une omniprésence très importante par rapport aux saints. Elle est plus sainte que les saints, elle est celle qui intervient. Et dans cet hymne acatiste, le trop-père qui revient, qui est le trop-père de la mère invincible, protectrice de la cité, nous voyons une mère guerrière, une vierge guerrière qui relie à l'Antiquité grecque, qui relie à la protectrice de la cité, qui va enfanter, bien sûr, un dieu. Et en même temps, on a un côté humain de la Vierge dans les louanges qui lui sont faites. C'est la femme et la divinité qui sont louées en même temps.
Oui, mais précisément de ce côté-là, je dirais, est-ce que la Vierge n'est pas en position exceptionnelle, c'est-à-dire intermédiaire, à la fois humaine et d'une certaine manière touchant à la divinité, puisque mère du Christ, comme si d'une certaine façon elle était le pont. Est-ce que c'est le sentiment qui correspond dans l'orthodoxie, comme si elle était le pont entre les humains et le ciel?
Tout à fait, c'est le pont, c'est celle qui relie les deux rives, c'est celle qui relie les deux mondes, c'est celle qui permet aussi que le chemin se fasse sans difficulté. Et d'ailleurs, dans un des saluts, elle est dite le pont de l'humanité. L'orthodoxie et les pères de l'orthodoxie considéraient que c'est à travers l'art qu'on pouvait comprendre le miracle de Dieu, et que l'art pouvait nous permettre à essayer de comprendre le divin. Et d'où l'importance de l'icône, qui n'est pas en tant que telle un objet fétiche ou un objet d'idolâtrie, mais qui est un moyen de concentration. Et nous avons la même chose aussi dans les chants. C'est-à-dire les chants sont très écrits, sont très, en même temps très simples pour que tout le monde puisse le faire, et qui sont aussi une façon de pouvoir réfléchir à ce que pourrait être Dieu, et laissant à chacun la conclusion à faire. Dans l'orthodoxie, ce qui m'a le plus toujours étonné, c'est que le purgatoire n'existe pas en tant que tel. Donc on se retrouve, les orthodoxes, face à Dieu. Et ce n'est que par rapport à l'art, la beauté, qu'on peut éventuellement approcher un Dieu, si Dieu il y a. Angelos protestatis, uranos hemaperfi, ipinti
theotokotoshe. À la fois, on dit on ne peut pas rendre visible l'invisible, et en même temps, il y a des milliers d'icônes. Et bien sûr, on sait que ces icônes ne sont pas des portraits, et encore moins des représentations, et qu'elles sont effectivement, comme vous le dites, des traces, et des traces codifiées, mais qui ont donc une couleur, une forme, une codification très précise, qui fait qu'on les reconnaît immédiatement par rapport à des fresques romanes, par exemple. Et c'est pareil pour l'hymnologie. Il faut penser aussi que la tradition du chant processionnel, du chant collectif, parce que l'hymnologie c'est un chant collectif avant tout. Il y a très peu de, apparemment, il y a très peu de soli dans les chants byzantins. Il y en a aujourd'hui quand on les chante, mais ce n'est pas certain qu'il y en avait à l'époque. Procède aussi d'une traduction antique. Il y a eu beaucoup de la plupart des hymnes. On le voit. Moi, j'ai traduit des hymnes orphiques, par exemple. Ces hymnes étaient de toute évidence processionnels. Et par ailleurs, ils étaient chantés certainement collectivement, et on ne peut pas savoir dans quelle musique, quel type d'instrument les soutenait, mais c'est évident que ce n'ont pas les Byzantins qui ont inventé la musique liturgique. Elle existait avant chez les orphiques et peut-être les pythagoriciens, pas dans les traditions grecques proprement païennes où ça n'avait pas lieu d'être, mais dans les traditions orphiques et pythagoriciennes, il y avait la musique était sans cesse présente, surtout chez Pythagore. Je me demande même d'ailleurs si les grands auteurs d'hymnes, parce que Pythagore a continué d'être lu même en pleine époque byzantine, il ne faut pas croire que les Byzantins, tout au moins ceux qui étaient des lettrés, traitaient les ancêtres païens comme de simples, j'allais dire, prédécesseurs. Il y a des recherches, il y a des textes, même de musique byzantine, où on se réfère à Pythagore. Et donc, derrière tout cela, il y a une continuité, j'insiste encore là-dessus. L'hymnologie byzantine, la poésie byzantine, je dirais la sensibilité byzantine, bien qu'il y ait une mutation radicale qui est l'arrivée du christianisme, reste quand même grec dans ses structures profondes. Et moi qui ai traduit un peu tous les Grecs, le grec ancien, le grec d'Orphée, le grec des évangiles, le grec byzantin, le grec du 18e, le grec moderne, je suis frappé par ce fleuve continu dont, en quelque sorte, changerait simplement les irisations. Comme les ailes de papillon selon qu'elles sont à l'ombre ou au soleil. Il y a dans l'hymnologie byzantine, le grec, je dirais, de tous les temps, mais transformé à travers un sentiment que n'avaient pas les Grecs anciens, qui est la transcendance, évidemment, et qui est un apport relativement oriental, n'est-ce pas, et qui vient de la Bible. En tout cas, c'est vrai que cette hymnologie, comme les icônes, on ne devrait pas la juger uniquement du point de vue littéraire ou poétique, pas plus qu'une icône ne se juge du point de vue de l'histoire de l'art, enfin. Sa fonction n'est pas d'être une œuvre d'art. Et celui qui l'a peint à l'époque, tout au moins à la grande époque des icônes, ne se considère pas comme un artiste des beaux-arts, mais comme un moine, comme un ascète ou comme un serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, on sait que les gens priaient avant de commencer une icône, et on prie aussi avant de chanter une liturgie. Il ne faut pas oublier le cadre dans lequel tout ceci se déroule, même si maintenant, on ne les lit, on ne les découvre qu'à travers un texte, à travers des traces analogues à ce qu'est un squelette par rapport à un animal vivant.
Du Très-Haut, la puissance recouvrit de son ombre celle que nul époux jamais ne côtoya, et révéla le fruit de son ventre fertile à tous ceux qui voulaient recueillir le salut en entonnant Alléluia. Et la Vierge, en elle portant Dieu, s'en alla voir Élisabeth et l'enfant de celle-ci, devinant la visitation, sauta et chanta dans son ventre en disant à la Mère de Dieu, salut verger du fruit total, salut nourrice de celui qui nous nourrit d'amour, salut planteuse de celui qui planta notre vie, salut terre fertile des compassions, salut table fleurie des rémissions, salut horticultrice des délices, salut réparatrice des supplices, salut encens des dignitaires, salut sérénité de l'univers, salut élan de Dieu vers les mortels, salut élan des mortels envers Dieu, salut épouse inépousée.
Par rapport à l'Occident, je dirais la peinture religieuse est généralement une peinture d'illustration, et la musique religieuse, difficile de parler de musique d'illustration, mais c'est une sorte de musique d'expression, si on peut dire. On a l'impression, du côté de l'orthodoxie, qu'il y a d'un côté une sorte de théologie savante, d'une part, et l'icône et le chant sont ce que j'appellerais, c'est pas du tout de l'illustration, mais ce que j'appellerais une théologie vivante, vécue, directement.
Oui, je crois que vous avez raison. C'est pas à travers le côté savant de l'écriture, de la composition de l'icône, que l'on peut arriver à une image et du divin. Vous savez, dans la semaine d'après, après l'hymne acatiste, le soir du Vendredi Saint, on va chanter les pleurs de la Vierge à son fils mort. Donc, et là, on le sait que des passages entiers du chant du Vendredi Saint ont été pris par le chant d'Agave des Bacchantes lorsqu'elle pleure la mort de Penté. Donc ce lien entre la musique savante de l'Antiquité se retrouve et est reprise telle quelle par les théologiens et les musiciens de la Grèce byzantine.
Et c'est vrai que la Vierge occupe quasiment également, je dirais, tout l'espace de la souveraineté féminine. Elle n'est plus du tout uniquement la petite Myriam, n'est-ce pas, qui a mis au monde un enfant et qui l'a élevé comme elle a pu et qui est mort sur la croix. Elle est devenue une divinité uranienne, céleste, totale. Elle a en grande partie d'ailleurs remplacé, puisque les épithètes qu'on lui porte dans Byzance sont les mêmes que ceux d'Athéna. Athéna était appelée aussi la platite, la ton uranone, la plus vaste dans le ciel. Et c'est l'épithète immédiate de la Vierge. Alors, il y a à ce sujet une fresque très passionnante au mois au monastère de Vatopedi. C'est une fresque tardive, elle doit dater du XVIIe siècle. Elle représente sur la coupole qui est au-dessus du sanctuaire, elle représente donc le ciel constellé d'étoiles. Ce grand ciel constellé d'étoiles, c'est la jupe de la Vierge, hein, c'est souvent cette image, c'est le manteau de la Vierge, le ciel. Et la Vierge est donc là, donc la plus vaste dans les cieux, et elle a un geste pour chasser effectivement une forme qui s'en va et qui est Athéna. Et qui la regarde en s'en allant, et qui t'aime même platitera ton uranone. C'est-à-dire que la Vierge chasse Athéna en lui disant maintenant c'est moi. Et c'est assez évocateur. Alors bien sûr, c'est peut-être une école locale qui a fait ça. On ne trouve pas l'équivalent dans les textes proprement dit. Mais ça montre non pas une révolution ou une mutation, mais une transmission, en quelque sorte.
Lorsque vous entrez dans une église orthodoxe, vous voyez il y a un iconostase. Et devant l'iconostase, il y a un petit chemin. Et sur ce chemin, c'est la Sénée de l'Antiquité. C'est sur ce Sénée qu'on va lire l'Évangile. Il y a les trois portes de la fin de la tragédie grecque. C'est de la porte du milieu que vont sortir, de là où sortait le Deus ex machina. Et les portes de droite et de gauche ne sont que des portes secondaires par rapport à la porte principale. Vous avez l'orchestre, vous avez l'évolution du prêtre, lorsque le prêtre va imiter la descente du Christ, il ne va pas le faire sur la scène, il va le faire dans l'orchestre. Et pendant qu'il le fait dans l'orchestre, c'est les psaltes, les deux chœurs qui vont commenter l'action. Donc nous voyons bien qu'il y aurait une continuité entre la Grèce antique et ce qui restait. Et je crois que ce n'est pas des hasards, c'est des volontés d'essayer de sauvegarder une identité, encore une fois.
Les hymnes ne sont pas de la théologie mise en vers. Hein. Ils représentent un état intérieur, une émotion, un sentiment, bien sûr, de l'indicible, de la transcendance. Vous savez que ça vient de Byzance, le terme apophatique, c'est-à-dire ne pas pouvoir définir la nature même de Dieu. Il est indicible par nature, incommensurable, etc. Dans la littérature ou dans la théologie française, le seul texte, mais je ne la connais pas très bien, que j'ai trouvé remarquablement proche de ça, c'est un jour un sermon de Bernard de Clairvaux, lorsqu'il a fondé l'ordre cistercien, et où il y a cette idée que Dieu étant sans mesure, étant illimité, lui seul peut être pour nous la mesure de l'illimité. Et c'est tout à fait byzantin, si j'allais dire. C'est ce sentiment de l'impossibilité d'appréhender, de définir, de mesurer, de ressentir dans sa plénitude ce qu'est l'existence, la présence et le pouvoir de Dieu. Et l'hymnologie, très bizarrement dans l'ensemble, elle est toujours dans ce registre-là. En quelque sorte, c'est pour combler un vide incomblable d'une certaine façon. Et tous les hymnes sont là, que ce soit la Vierge, que ce soit bien sûr au Christ, dit Pantocrator, l'Omnipotent. Cela pour dire tout ce qu'on ne peut pas arriver à dire, tellement leur nature va au-delà des termes humains et même à la limite de l'appréhension humaine. Et c'est donc, non pas, comme c'est le cas quand même dans beaucoup d'hymnes, disons latins ou de la tradition occidentale, une énumération des immenses qualités, ô toi qui, etc., c'est le contraire, ô moi qui ne peux pas. Aller jusqu'à comprendre, jusqu'à voir, jusqu'à ressentir, jusqu'à énumérer, jusqu'à mesurer, etc. Et c'est vrai aussi que cette poésie de l'incomplétude est extrêmement émouvante parce qu'elle ne repose pas sur un sentiment de communion inconditionnelle, mais finalement, et quelle que soit l'ardeur, la ferveur, la beauté de certains hymnes, sur le sentiment d'un manque profond que Dieu seul peut combler s'il le décide, mais auquel l'homme ne peut pas prétendre de par sa nature.
Choisissant de remettre les anciennes dettes, le créancier de tous les hommes spontanément se rapprocha de ceux qui s'étaient éloignés de sa grâce et, déchirant la preuve, les entendit chanter « Alléluia ». Psalmodiant la naissance de ton enfant, nous célébrons en toi le temple de la vie car en ton gastre habita le Seigneur, tenant l'univers en ses mains. Il nous bénit, nous glorifia et nous apprit à dire « Salut demeure du Dieu Verbe, salut sainte plus sainte que les saints, salut arche nommée d'or par l'Esprit, salut trésor inépuisable de la vie, salut diadème inestimable du roi, salut fierté vénérable des prêtres, salut tour inébranlable de l'Église, salut rempart indéfectible de la royauté, salut dresseuse de trophées, salut dominatrice des ennemis, salut guérison de ma chair, salut sauvegarde de mon âme, salut épouse inépousée.
L'image donc et l'appréhension de ces choses se font par la peinture, les icônes, et par la poésie, par les chants liturgiques. Ils servent en quelque sorte de, je dirais, d'échelle, ils servent d'intermédiaire pour accéder à ces connaissances. Mais donc ça reste sensible, parce que les icônes, il faut quand même des yeux pour les voir, les hymnes pour des oreilles, pour les entendre. Je ressens simplement dans les textes que j'ai traduits, notamment, vis-à-vis de la Vierge, quelque chose d'extraordinairement cosmique et extraordinairement humain. Ce qu'on n'a pas dans les hymnes et dans les, disons en gros, dans les poèmes adressés au Christ proprement dit, qui tend de plus en plus à prendre l'allure d'un immense chef de guerre qui va triompher, n'est-ce pas, des milices du mal. C'est un peu ça aussi sa fonction. Vous voyez, si dès l'instant où il reste homme, il reste mal, il a fatalement une fonction de combat. Il a une fonction ou de défenseur ou de conquérant. Parce que c'est toujours étonnant de se dire s'il est maître du monde, pourquoi a-t-il besoin de se battre pour le conserver? Et il y a donc derrière tout ça, vous voyez, des choses qui ne sont pas clarifiées. Et au fond, à quoi peut servir même l'hymnologie, qui n'est pas qu'un hymne dévot, inconditionnel, et où on voit qu'il y a des questions qui sont posées quand même de temps en temps, et parce qu'il y a des mystères. Et s'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de poésie. Et le mystère reste là. Dans le fait que le pouvoir de Dieu ne semble pas absolu, et dans le fait que seule la Vierge, parce qu'elle est capable de se mettre à la dimension de l'être humain, et de deviner, de sentir tout ce que l'être humain ressent, est évidemment celle dont on se sent le plus proche, parce qu'elle-même vient vers vous. Elle s'abaisse, mais au sens noble, des cieux vers la terre. Mais ça, c'est cette image grandiose qui devient d'ailleurs une image, on pourrait dire... une image transcendante de la Vierge aussi. On est loin de la Palestine, on est loin des paysannes palestiniennes, et on est loin de Bethléem, on est loin de la crèche, là. On n'est même plus du tout dans la crèche, on est dans les galaxies.
Croire en Dieu n'était pas forcément la chose la plus importante pour participer à une messe. On allait à la messe comme si on allait entendre un opéra. Et notre approche vis-à-vis de ça était sur la beauté artistique de ça. Et j'essaye de travailler sur la qualité artistique et sur cette beauté qui à mon avis est époustouflante dans ces poèmes, par rapport à ces répétitions, par rapport à ce jeu des mots, par rapport à ces jeux de pensée qui d'un vers à un autre s'ajoutent et en même temps ne sont pas pléthoriques, mais au contraire apportent chaque fois un nouveau vers, reprend un mot de l'autre et avance vers le prochain. Enfin, cette montée artistique et cette beauté musicale m'intéresse plus, je vous dirais, que le côté religieux de ces hymnes.
On prend tout un certain nombre de thèmes de la poésie, enfin disons de la poésie sacrée de Byzance de l'époque, on est frappé de voir, ce qui d'ailleurs sera toujours la marque de la grande théologie orthodoxe, de voir que le Christ n'est pas du tout le Christ souffrant, même à la limite le Christ variqueux qu'on va finir par trouver dans les peintures de Grunewald à la fin du Moyen-Âge, etc. Mais toujours c'est le pantocrator, le cosmocrator, c'est-à-dire celui qui régit toutes les choses, tout l'ordre du monde, celui qui régit le cosmos, etc. Comme s'il y avait une dimension cosmique, et je dirais que le fait que Dieu soit totalement transcendant, totalement inaccessible, en même temps redonner toute sa valeur au monde en tant que le monde est signe visible de cet abîme de Dieu en fin de compte.
Oui, d'ailleurs, j'irais même, enfin, en disant un peu plus loin, c'est pas seulement le Christ omnipotent, c'est le Christ triomphant. Parce que il s'agit pas d'être maître du monde, mais il s'agit de rester. Et là, il y a aussi cette idée que l'ordre du monde est quand même toujours menacé par l'existence des forces du mal, et le Christ est aussi le vainqueur. Ce terme est très souvent employé. Les épithètes du Christ dans l'hymnologie byzantine sont très intéressantes. Elles sont aussi riches et variées que celles de Zeus ou d'Apollon dans la Grèce antique, parce qu'il a des façades multiples, mais il a avant tout dans l'hymnologie byzantine, c'est vrai, ce n'est pas le Christ souffrant, le Christ cadavre, le Christ, c'est le Christ ressuscité. Enfin, c'est à partir de la résurrection que l'hymnologie commence, parce que un Christ sur la croix est aussi d'une certaine façon inaccessible, mais il est quand même, par la force des choses, proche de nous, puisqu'il s'est rendu proche. Et comme dit un hymne byzantin, comme disent plusieurs hymnes byzantins, toi qui abaissas les cieux jusqu'à la terre pour venir jusqu'à nous, parce que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec les cieux, avec le monde, tout le monde lui-même. Et c'est une image assez forte, ça. C'est un homme, mais c'est aussi, avec cet homme, le monde entier qui a été mis en croix. Le ciel, on pourrait presque dire les étoiles. Donc, cette dimension-là est propre à Byzance. Mais c'est vrai que c'est le monde dans sa plénitude. C'est le monde qui est maintenant fait, acquis, et qui va triompher, dans la mesure où il y a toujours ce combat latent des forces du mal un jour à venir. Mais on sait déjà, de même que Christ est ressuscité, il est déjà le vainqueur des derniers, je dirais, vestiges des forces du mal.
Χαίρε κι βοτέ του σοφίσα το πνεύματι, χαίρε κι σαυρέ τη ζωή αγαπάνητη, χαίρε τίμιο διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο.
Des poèmes mystiques, des hymnes moniales qu'on appelait Cassiani, qui est quasiment inconnu, qui a laissé d'ailleurs très peu de choses, et qui était donc monial dans un monastère des environs de Constantinople. C'est tout à fait étonnant, on ne sait pas qui elle est, mais sa poésie reste tout à fait étonnante. Voici un court poème qui est pour les matines du Mercredi Saint. Le Mercredi Saint, donc, c'est quand le Christ est au tombeau. Ce poème se réfère entièrement, sans qu'une seule fois le nom soit prononcé, évidemment, à Marie de Magdala, à Marie-Madeleine. La femme qui sombre dans le flot des péchés, à peine, Seigneur, t'entrevit-elle, qu'elle s'enroula dans les porteuses de myrrhe pour venir déposer des parfums devant ta sépulture. Et là, elle s'écria, nuit, nuit ténébreuse, nuit sans lune qui si longtemps m'enveloppa, et me torrada de luxure, et me fit aimer le péché. Accepte, venant de moi, les larmes que je t'offre, toi qui changes en nuages toute l'eau de la mer. Penche-toi vers ce cœur qui gémit, toi qui vins jusqu'à nous en abaissant les cieux. J'embrasserai et j'essuierai avec maîtresse tes pieds sans tache, ces pieds qu'Ève entendit un soir résonner au cœur de l'Éden et qui, saisi d'effroi, s'en alla se cacher. Qui jamais pourra mesurer la multitude des péchés, qui jamais pourra dénombrer l'infinité de tes éclairs. Seigneur, Sauveur, Souverain du monde, ne repousse pas ta servante, toi, incommensurable compassion.
C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Dino Licoudis et de Jacques Lacarrière. Mixage, Philippe Bredin, Thibaut Bourderioux. Réalisation, Isabelle Lefebvre-Huel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 février 2001. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.